With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quête latérale, épisode de septembre 2022, votre émission qui revient sur l'actualité vidéoludique de façon transverse et un épisode un peu anniversaire puisque l'entièreté du cast Vanilla avec leur toute première mise à jour est disponible ici dans cette émission. Incroyable, ça faisait longtemps, Daz.
Ça faisait super longtemps, ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Ponctualité, célérité, serviabilité.
C'est tout toi.
Originalité. Hein. Oui, je parle de tout le monde là.
Je reconnais.
Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, merci.
Fibre Tigre.
J'aimerais faire une plainte auprès de toi, Ken.
Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait encore?
Non, tu n'as rien fait.
Justement.
C'est pour ça que je me plains pas, je me plains auprès de toi, mais je me plains de mes camarades parce que j'ai fait une chronique il y a bien longtemps sur les roguelites et les roguelikes.
Oh.
Et à la fin, ils ont dit oui, je te promets, Fibre, on va tester.
Oh.
Et ils n'ont pas testé, ils n'en ont rien fait, tu vois. Alors
quoi,
que.
Si.
Ah, vous avez testé les...
C'était quoi le...
C'est les roguelikes avec des petits arrobas.
Cave of Cuds,
ouais, exactement.
Tu vois, je me rappelle du nom.
Excellent.
J'ai joué à Picross, est-ce que ça compte?
Non, pas du tout.
D'accord.
Donc, non, mais toi, t'es présentateur, donc ça va, animateur, mais voilà, j'aimerais juste remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire, ils ont dit oui, ce serait bien de la rappeler de temps en temps à leur promesse.
Alors attends, rappelle juste...
Fibre Tigre avec des doléances.
Auquel on doit jouer?
Si tu veux, tu peux jouer à Cave of Cuds, qui est très bien, par exemple.
Cuds. Petit stream Cave of Cuds, évidemment. Chloé est avec nous. Bonjour,
oui,
Chloé.
Oui, bonjour. Ravie d'être de retour avec le casting au grand complet.
Yes.
Presque. Hashtag au complet.
Hashtag au complet.
Presque, je rappelle qu'il manque une personne.
Mais c'est pas le roster Vanilla.
Voilà.
C'est pas le roster.
Il vient de Quête latérale Arcade Edition, lui.
Oui, c'est ça, exactement.
Chloé, c'est le DLC qui manque.
Je tenais à remercier Chloé publiquement pour m'avoir fait voyager cet été parce qu'elle a fait toute l'Allemagne en long, en large et en travers et l'Autriche et je sais pas quel pays.
Et on a tout suivi sur les réseaux.
J'ai tout suivi. Et c'est super. Voilà, merci.
Pareil.
Alors, je fais la pub pour le train. Bravo le train, merci le train.
Merci.
Merci le train, merci Interrail.
Victor sera content.
Et merci le Nanuo Ticket. Allemand, donc en gros c'est pendant tout l'été pour 9 euros,
tu pouvais prendre le train
en illimité tous les TER, donc j'en ai profité à blinde, donc
voilà,
merci.
Si vous
exactement pas pareil en France.
Exactement,
si vous
voulez plus d'informations évidemment sur les transports et les vacances, petit épisode de commute qui est sorti évidemment chez De Qualité aussi récemment, la MUA.
Je viens de terminer l'épisode, le dernier épisode de commute.
Qui dure 8 heures.
Voilà, et tu parles de billets de train à 9 euros, j'ai vu un porte-bagages à 900 euros. Moi. J'ai écouté un porte-bagages à 900 euros, mais tu pouvais sentir tu pouvais voir, je sais pas comment dire. Voilà.
Mais avec les sacoches. Hein.
Voilà, évidemment.
Ravi
d'être là et un peu triste parce que je ne joue pas assez aux jeux vidéo ces derniers temps.
Ah, voilà. Je sais.
Je connais cette douleur.
Je voulais jouer à plus de jeux vidéo, notamment cet été, et j'ai assez peu joué finalement. Voilà.
Est-ce que je peux en profiter avant qu'on démarre, juste pour envoyer un message par le biais de l'âme. L'âme, s'il te plaît, Pouillot, Nicolas Verlet. Merci de faire du lobbying pour qu'il me passe la Blast City qui sert à rien sur votre mezzanine. Merci beaucoup. J'envoie un message tous les jours à Pouillot pour qu'il me donne sa borne ou qu'il me la vende. Donc l'âme, s'il te plaît, fais-toi le relais. C'est
bah,
pour
du
le,
coup, il faudra
le
que tu fasses un chèque à Reworld Media bientôt pour acheter cette borne de Blast City.
Ils prennent les
si elle a une platine 32 kHz, tu ferais une petite affaire aujourd'hui.
Il paraît que la géométrie est parfaite à Dixit Yamato.
De Blast ? Incroyable. Absolument incroyable. Eh bien écoutez, le message est passé, Nicolas Verlet. Si tu nous écoutes, bien entendu,
voilà.
Salut Gaijin Dash. Autre pause 4, mais pas chez nous, malheureusement. 4 chroniques, 3 pauses. On commence tout de suite avec Fibroti qui va nous parler des Solus.
Oh, c'est si beau.
Ça s'entend pas. Ah, ça s'entend. Oh, merde.
Fibre Tigre, quels sont ces outils du démon? fait pour tuer tous ceux qui font des jeux vidéo?
Eh bien, une solution de jeu vidéo, c'est un document qui nous permet de finir un jeu vidéo.
Voilà. Merci beaucoup, Fibre-Tigre. C'est l'heure de la première pause.
On a dit qu'on chiait sur les podcasts Wikipédia, Fibre-Tigre. Qu'est-ce que c'est, cette fiche Wikipédia?
La solution. Non, non. Hey, pour montrer que c'est pas Wikipédia, c'est un bullet point. D'accord. Donc, on parle aussi de Solus, qui est un terme français très mignon, qui a toujours existé et qui fait partie de ces mots qui émergent de rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas le mot Solus et tout d'un coup, le mot Solus est arrivé. Comme quoi, c'est un peu un vocabulaire de cours de récré.
Ah,
c'est-à-dire
ouais.
que, t'as la Solus pour le truc. Donc, en général, parce qu'on va parler abondamment de la Solus, c'est un texte, illustré ou non, qui décrit pas à pas les étapes nécessaires pour arriver à la fin d'un jeu vidéo. Parce que déjà, il y a des jeux vidéo qui se finissent, et c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Tu sais, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, ils disent « Ah bon, il y a une fin à Pokémon ?» Mais récemment, il y a même des gens qui disent « Ah bon, il y a une fin aux séries ou aux dessins animés ?» Mais nous, on est des complétionnistes.
Ah,
non, mais il y a des gens voilà, qui ne savent pas. Mais après, cela dit, y a-t-il une fin à Candy Crush, tu vois, donc ça se pose. Quand on retourne, alors, petit point Wikipédia, mais pas trop, parce que je vais vous parler de quelque chose que vous ne savez pas, qui d'ailleurs n'est pas dans solution, à mon avis, sur Wikipédia, qui est les Invisiclous ou les Invisiclous de Infocom. Donc, quand il fait les tout premiers jeux vidéo dans les années 80. C'était pas une solution que t'achetais, il y avait marqué faire ça, faire ça, faire ça. C'était un petit texte qui te posait des questions, qui disait ah bon, vous êtes coincé dans la boulangerie.
Ah.
Avez-vous regardé partout?
Ah, mais ça, en fait, c'était l'ancêtre des escape rooms. Quand tu sais, t'as l'opérateur de l'escape room qui t'envoie des indices parce que tu galères.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avant, parce que ça ne se fait plus aujourd'hui, mais avant, il te posait des questions pas à pas en te disant, en fait, en t'approchant de la solution. Et à la fin, quand tu trouvais vraiment pas, il dit, bon, bah, la clé, elle est sous l'armoire et tu t'ouvres la porte avec. Voilà. Mais c'était assez intéressant parce que ça permettait de ne pas brûler le jeu et pour en passer un autre, parce qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'était quelque chose qu'il n'y en avait pas beaucoup.
J'appelais ça un guide, moi, à l'époque.
Ouais. Mais le guide, c'est une solution pas à pas. L'Invisiclou, c'est très particulier. Et pour vous dire quelque chose, l'Invisiclou, à l'époque, on est en 84, ils en vendent 500 000 exemplaires papier. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait plus de solutions d'un seul jeu comme Zork que de Stephen King qui circulaient en vente.
Waouh.
Alors, le site principal de solutions internationales, c'est...
jeuxvideo.com.
International.
Oh. Jeuxvideo.com.
GameFAQs, exactement.
Ah, GameFAQs
qui donne des solutions de tous les jeux, même des jeux très obscurs, en format texte. C'est-à-dire ouais. vraiment le bon vieux notepad.
Ah ouais.
Alors, la Solus, c'est un biz. Hein, depuis toujours, j'en viens d'en parler des 500 000 Invisiclous, mais imaginez les années 80, sans Minitel, sans Internet, vous avez votre Monkey Island, on va dire plutôt votre Zack McCracken, et vous êtes bloqué. Qu'est-ce que vous faites? En vrai, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué. Vous appelez papa, maman, vous jouez avec les potes, ils trouvent pas, ils savent pas quoi faire. Et moi, personnellement, alors je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'étais bloqué un an dans Monkey Island. Dans Monkey Island, à un moment, il y a une... Comment ça s'appelle?
Spoil pas.
Il y a une boussole à attraper. Et il faut un aimant pour l'attraper de loin. Je sais pas quoi. Je me souviens plus du truc, mais je n'ai jamais eu l'idée de le faire. Et en vrai, j'ai mis un an pour trouver le truc. J'ai mis 3 ans pour être débloqué de Ultima Underworld parce que j'y jouais en boucle et je trouvais pas le truc qui me manquait.
C'est-à-dire que pendant 3 ans, tu jouais tous les jours?
Non, je jouais pas tous les jours, mais tu sais, okay. Tu joues, tu dis bon, je suis bloqué ou c'est la fin. Ou tu sais, parfois à l'époque, on disait tiens, le jeu bug en fait. Je trouve pas, donc le jeu bug, donc il y a pas de solution en fait. Mais tu pouvais pas le savoir parce que parfois tu lis la solution et dis mais pourquoi ça marche pas chez moi? Ok, le jeu bug. Là, tu pouvais pas trop le savoir. Donc c'était un univers un peu étrange et la solution c'est aujourd'hui c'est un peu plus courant parce que aujourd'hui les sites de news, donc vous avez parlé de jeuxvideo.com, eh ben ils se pressent pour sortir la solution le plus rapidement possible. Il y a des gens qui...
C'est la guerre.
Dès que le jeu sort en preview, ils sont en stress de sortir la solution
Bonjour
la plus complète.
Bonjour Alvin de jeuxvideo.com.
Voilà, par exemple.
Jeuxvideo.com, il fait son pot de départ ce soir, je ne peux pas le...
Non, c'est
je
vrai
Je ne peux pas y aller, oui, tout à fait.
Voilà. Incroyable. Eh bien, Alvin, par exemple, c'est quelqu'un qui avait le jeu vidéo un peu avant tout le monde et qui s'empressait parce que, effectivement... Si vous êtes bloqué day one sur le jeu vidéo, vous allez le taper sur internet et vous allez trouver sur jeuxvideo.com et donc vous allez consommer les publicités qui sont à côté des Solus, contrairement à GameFAQ où il n'y a pas trop de publicités, mais les solutions viennent un peu plus loin, un peu plus longtemps. Donc c'est un vrai biz et c'est effectivement, on pourrait se poser la question de la pénibilité du travail de ces gens qui doivent terminer Zelda Breath of the Wild en 3 jours.
Je connais bien.
Voilà.
Je connais bien.
Lire la solution, c'est aussi une façon de consommer un jeu, de la même façon qu'on peut consommer un jeu sur Twitch.
Complètement.
Moi, personnellement, il y a des jeux vidéo, bah, je me tourne vers toi, Chloé. Par exemple, Xenoblade, jamais je jouerai à Xenoblade. Okay. C'est pas possible, c'est pas ma cam, j'y arriverai pas. Ou Star Ocean, voilà. Et ben, ce que je fais, c'est que je lis la Solus, je dis, ah ouais, ok, il y a ça qui se passe, c'est quoi les... Enfin, tu vois, Et effectivement, en une soirée, t'as vu tout ce que le jeu avait à t'offrir. Après, tu dois imaginer ce qui se passe, mais en vrai, tu vois le truc. Et tu fais pas le grind de 1000 heures, quoi. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et y a des jeux, je sais que j'y jouerai jamais, mais je les ai beaucoup consommés. Et puis, ça nous les fait apprendre, et je trouve ça intéressant. La solution, c'est aussi, et notamment là, je me tourne vers GameFAQs, mais aussi, aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de distribuer la solution, c'est par des wikis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a wiki.fandom.com, oui, par exemple, ou des wikis liés à des solutions. Il y en a un sur Cave of Cud d'Az. En gros, comme en fait le wiki, tout comme GameFAQs, un petit peu, parce que c'est un travail de passionné, il va te donner la solution, mais aussi le lore. C'est-à-dire, le personnage, cet ennemi-là, en fait, c'est une référence à machin, un peu comme un Wikipédia, en fait. Et il y a cette idée de construction de l'univers, de la licence qu'on découvre à travers la solution. Donc, aujourd'hui, on peut parler de solution augmentée, d'une certaine façon. Ça ne se réduit pas à, tiens, t'as la solution, je suis bloqué. Et les solutions, il y a aussi, dans ces wikis, j'ai découvert des théories. J'ai vu un petit Larson, mais ouais, non, c'est bon.
Non, c'est un frein.
C'est dehors, ouais, c'est un frein de Vélib.
Excusez-moi.
Je reconnais le frein de Vélib.
Ouais. Donc, les solutions vont un petit peu plus loin que la solution parce que aujourd'hui, dans GameFAQs, t'as toute une section. Déjà, souvent, t'as une section qui suis-je. Voilà. Mon mail, c'est ça. Si vous trouvez un truc que j'ai oublié, faites-le. Et à la fin, il y a j'ai découvert ça, j'ai découvert ce bug, j'ai découvert ça. Ça, cet ennemi, j'ai jamais compris comment, pourquoi il existe. Et parfois, c'est juste un ennemi en trop qui pop une fois sur 30 000 ou je sais pas quoi. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un peu le découverte de nouvelles théories. Moi, personnellement, par exemple, quand il y a un jeu que j'aime beaucoup, hein, par exemple Gladius, dont je vous ai parlé de temps en temps, qui est un tactical, et ben via GameFAQs, parce que j'ai saigné la fax, j'ai découvert un forum sur GameFAQs de passionnés qui m'a donné accès à un Discord où les gens ils sont en train de créer en amateur Gladius 2. Donc en fait, c'est le point d'entrée, la porte d'entrée de plein de communautés, bon, un peu underground, mais assez intéressantes. Et
un peu, hein.
Je dois vous dire que, par exemple, un jeu comme Dark Souls, on parle beaucoup de Dark Souls comme quoi c'est un jeu difficile, si on pourrait en parler, mais surtout, c'est un jeu qui a fédéré par sa difficulté parce qu'on avait besoin d'une solution. C'est-à-dire que, en gros, quand tu joues à Dark Souls, tu es paumé, tu sais pas quoi faire, tu comprends pas le système de leveling des objets, par exemple. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Tu poses la question à Internet et tu te retrouves avec d'autres gars qui cherchent la solution et qui essayent d'en construire une commune et qui disent « Hey, j'ai découvert ça, ça, ça ». Et en fait, cette construction de solution, un peu comme le wiki, c'est aussi une construction de communauté. Et aujourd'hui, je parlais de solution augmentée, là, on pourrait parler de solution hyper augmentée. Et récemment, ça date d'il y a quelques mois, je découvre un nouveau plaisir à deux.
Ah.
Voilà. Qui est le fait que dans notre couple, l'un de nous deux joue aux jeux vidéo et l'autre à la solution. Donc par exemple, ma femme a fini Tunic. Mais évidemment, Tunic est méga dur. Et elle me disait, il faut faire quoi maintenant ? On allait sur supersolus.com.
Oh là là.
Ou encore mieux, alors vraiment, les forums de jeuxvideo.com avec salut, c'est santé, salut, smile. Je joue à Tunic avec 10 000 fautes, tu vois. Et alors je dis, regarde les fautes, elle dit, ah, dis-moi la solution. Bon, voilà. Et en fait, c'est assez bien parce qu'on s'échange un peu ça, c'est-à-dire à ce côté vachement agréable.
C'est du backseat de couple.
C'est du backseat de couple, mais ouais. C'est aussi hyper agréable de. Tu joues à un jeu et la personne qui t'accompagne, c'est une personne que t'as un GPS qui t'aime bien,
c'est
tu vois.
Ça. Voilà. C'est ta fac humaine.
C'est ouais. ça.
La petite fée Navi, tu vois, dans Zelda.
Voilà.
Va par là.
Donc, j'ai trouvé ça assez agréable et je pense même qu'on pourrait. Parce qu'on a parlé il y a bien longtemps dans un podcast que je ne vais pas citer qui n'existe plus, de tablette compagnon de jeux vidéo qui a été le fantasme à un moment de tous ces grands jeux. Ben, on peut penser à un humain compagnon de jeux vidéo. Mais... Et donc, une question qu'on se pose aujourd'hui en développement, pour aller un peu plus loin, c'est est-ce qu'on peut inventer des jeux sans solution ? Ce qui permettrait. Alors, c'est un peu le principe du roguelike, finalement, Dead Cells, on va dire, va tout droit et essaie de survivre. Mais est-ce qu'on peut faire des jeux sans solution ? Parce que ça serait. Est-ce que ce serait une bonne question ? Est-ce que ce serait une bonne idée ? Est-ce que c'est faisable ? Tu vois, c'est des questions qu'on se pose. Et ça nous permettrait, en fait, de. Ben, comment dire ? De recentrer le. Parce que, en fait, les créateurs de jeux vidéo, ils ont ce problème qui est qu'il faut vendre des jeux. mais qui se consomment par d'autres façons. Et quand un jeu peut se consommer, par exemple, en lisant une solution, donc on n'a pas à le consommer, c'est un problème pour le créateur du jeu. Donc si on pouvait créer un jeu sans solution, ça ajoute une expérience personnalisée, ça ajoute... Donc voilà, c'est un problème que je pose un peu à la commu. Si vous avez une idée de créer un jeu vidéo sans solution possible, ça peut être intéressant. Je voulais aussi vous parler d'un... Dans mon mini-monde de la fiction interactive, on a une walkthrough comp, donc comp pour compétition, où en fait tu dois créer un jeu à partir d'une solution imaginaire.
Oh, oh, stylé!
Donc la solution, par exemple, type de solution, c'est rentrer dans la voiture, mettre la ceinture de sécurité, allumer le contact, descendre, ramasser l'objet bleu, tu vois, et donc t'as toute la solution, mais il faut créer le jeu. Et c'est assez intéressant parce que le but, évidemment, c'est de faire le jeu le plus original avec une solution qui est assez standard. Comment serait notre vie de gamer sans Solus, à nouveau dans les années 80? Est-ce qu'on finalement on dirait écrivez à Quête Latérale si vous avez une solution pour battre le boss de Zelda Breath of the Wild, tu vois, je sais pas comment on ferait, mais on serait obligé de créer des solutions communes, mais c'est un peu en... Cette idée de, voilà, demain, si on crée des jeux vidéo sans solution, comment est-ce qu'on, finalement, on se retrouve pas isolé, tu vois? Et j'ai vu... alors, il y a le problème du backseat sur Twitch, qui est une façon de transmettre la solution. Donc, c'est quoi? C'est, sur Twitch, vous avez quelqu'un qui joue à un jeu, et des gens de la commu vont donner la solution au streamer, ce qui fait que le streamer, il va pulvériser le jeu. Ça, c'est mal vu, parce que le plaisir de Twitch, c'est de voir le streamer se battre contre le jeu à armes égales. MV, il a fait récemment pour Monkey Island, je crois, Monkey Island 1, un entre-deux. C'est-à-dire, il a dit, vous avez le droit de backseat, mais uniquement par émoticône. Donc, il y a ce côté de... J'essaie de comprendre les hiéroglyphes du chat.
L'énigme.
Ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il a gamifié la solution. C'est qu'il a gamifié le backseat, qui est une super, super bonne idée. Et enfin, avant de conclure et de vous dire, et vous, utilisez-vous des solutions, quel est votre avis par ça? Je voulais vous parler de la Solus œuvre d'art. Donc, il y a des très beaux guides. Longtemps, quand j'étais jeune et pauvre, j'ai rêvé de m'acheter le guide Earthbound qui était à $15 à l'époque. Ouais. Et maintenant, il doit valoir $1000, j'en sais rien, j'ose même pas regarder. Et en fait, en gros, il y a des très beaux livres et moi, j'en ai. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple le guide complet de Morrowind. Quand j'ai un beau jeu comme Unreal que j'aime beaucoup, j'achète le guide Prima, tu vois, parce que je revis le jeu le soir dans mon lit plutôt que d'y jouer parce que c'est plus simple, on va dire, c'est des jeux d'une autre époque. Et surtout, Morrowind, c'est très complet, ça fait plaisir. Donc il y a des beaux jeux et je voulais vous parler d'une solution GameFAQ très particulière qui est une véritable œuvre d'art. C'est la solution de Super Metroid par un gars qui s'appelle Nemesis, N-E-M-E-S-1-S-S.
C'est une solution légendaire ça.
C'est une solution légendaire parce qu'en fait c'est une solution en texte justifiée, c'est-à-dire que le texte il est aligné au milieu. Mais il a utilisé aucun double espace, c'est-à-dire qu'il l'a fait uniquement avec le vocabulaire anglais.
Wow.
Donc tu lis la solution, tu dis OK.
Bon, il a fait des blocs parfaits de texte.
Blocs parfaits de texte. Donc là, voilà, c'est une Solus œuvre d'art. Donc, la personne a fait ça. On ne sait pas pourquoi il l'a fait, mais en tout cas, elle est magnifique à contempler.
Il n'y a aucun mot qui est coupé. C'est du sans sérif, donc les formats des écartements sont fixes. Il a coupé aucun mot en deux. Il a triché à aucun moment. Il a fait des blocs de texte parfaits. Il a écrit pour que tout soit des blocs de texte parfaits.
Voilà. On ne sait pas pourquoi
c'est
il a
propre,
fait ça.
Hein, c'est propre. Hein.
Non,
beaucoup
voilà.
Trop de temps libre pour FR.
Oh, là, 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 là.
Mais je crois que c'est la solution la plus légendaire de GameFAQs.
Ouais, j'en ai parlé. C'est un peu ça autour de ça. C'est un peu le point d'orgue de la chronique. Je voulais qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant à partir de ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a dit tiens, je vais consacrer 3 mois de ma vie à faire un truc fou. Mmh. Et en plus, la solution c'est intéressante. Donc, comme quoi, c'est un business intéressant. Mais n'hésitez pas à me parler. Est-ce que vous avez déjà un geek de Solus? Est-ce que vous utilisez Solus? Est-ce que vous faites du Solus couple comme moi? Voilà.
Alors, back évidemment to the 90s. Chloé, les Solus à
justement, j'allais te dire qu'on parle de GameFAQs, mais quand même, GameFAQs, je suis désolée, mais c'est un truc de vieux. Enfin, un truc de vieux comme nous. La Solus texte, aujourd'hui, c'est fini. Les gamins, ils vont pas sur une Solus texte.
Ils vont sur YouTube.
Ils vont sur YouTube.
Et moi, je peux pas parce que je veux pas perdre 20 minutes. Pour trouver le bon segment où le gars il va te dire ça, tu vois. Moi je vais
c'est
faire un contrôle.
C'est chiant ça, les vidéos à la place des tutos ou des trucs comme
mais
ça.
Mais oui,
ça.
Moi aussi, je comprends pas.
C'est
mais malheureusement, je suis obligée de constater que aujourd'hui, il y a un gamin qui est bloqué, il va pas te dire je vais sur GameFAQs et je vais faire la petite recherche de mots-clés qu'il faut pour tomber au bon endroit. C'est non, je vais faire une recherche YouTube, la vidéo, je vais avancer jusqu'à tomber exactement sur l'endroit qui m'intéresse. Et comme ça, comme ça, je vois ce qu'il faut faire. Donc c'est plus simple que de le lire. Mais je ne comprends pas, je comprends pas non plus. Mais après, je me rends compte qu'il y a aussi pas mal de jeux, malheureusement, t'as plus trop le choix, quoi. Enfin, faut passer par la soluce vidéo si tu veux avoir ta solution. Parce que la soluce texte n'existe pas forcément.
C'est vrai. Des fois, la soluce vidéo est pas claire non plus. C'est pas trop comment le mec il a fait. Il arrive, oui. Il bat le boss, fait mais. Ok.
Surtout à Dark
c'est quoi
Souls.
La solution, c'est quoi? Sois bon. Super, grosse soluce, lame.
D'ailleurs, Dark Souls, tu as faux. Hein. Quand tu demandes de l'aide sur internet à Dark Souls, on te donne pas d'aide, on te juge.
C'est vrai.
J'ai plein de réactions là-dessus. On va les faire chronologiques tellement qu'il y en a. Années 80, j'avais la NES et le jeu Rigard. Qui était un jeu avec un mec qui a une sorte de petit disque là.
Oui. Ouais.
J'ai saigné des pouces de. Bon, comme sur tous les jeunesses.
Il est interminable.
Pour apprendre plus tard qu'il était littéralement interminable dans sa version française, il y avait un bug qui disait que tu pouvais pas battre le dernier boss. Ça m'avait rendu fou. Années 90, je suis resté plus d'un an sur un jeu d'aventure aussi. Indiana Jones, le 3.
Ouais, avec
le moment où tu dois casser une des dalles dans le musée pour trouver la croix. J'ai pété un câble. Fin des années 90, mon premier boulot était de faire des solutions de jeux vidéo sur Minitel.
Sur Minitel, oh là là.
T'as l'ami, il a tout fait, je te jure.
Avec mon compère et colocataire de l'époque, Incola, qui a ensuite créé l'équipe d'e-sport Good Game, on rejoint son frère, qui est un des premiers employés d'une société qui s'appelait donc, Pixtel, et qui faisait des services de solutions de jeux vidéo, et qui ensuite s'est mis à vendre des logos, de ces petits logos Starac sur tes téléphones Nokia et tout ça. Et donc, on écrivait des solutions qu'on uploadait sur Minitel, etc. Et c'était incroyable parce que on était quasiment encouragés à faire des solutions longues et verbeuses, puisqu'évidemment, à chaque fois, quand tu devais faire une page en plus, il y a un chargement, il y a de l'argent.
Formidable.
Et donc, je pense qu'on a détroussé des gamins qui ont dû payer pour du Final Fantasy ou du Tomb Raider. À l'époque, je me rappelle avoir souffert sur Tomb Raider peut-être des 10, 15, 20, 25 francs, tu vois, à l'époque, pour consulter quelques pages.
Oh, là, c'est comme la version Minitel de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc par exemple les Super Solus, où tout est découpé en pages particulières. Et en fait, tu t'y retrouves pas dans la navigation, donc tu es obligé de retourner sur la page principale. Enfin, bref, c'est l'enfer.
Et puis tu disais quoi? Tu disais, vous arrivez dans une grande salle vraiment très grande avec un rocher et tout.
Je racontais ma vie, tout ça. C'était vraiment.
Et là, appuyez sur l'interrupteur, page suivante, rouge.
C'était un job affreux. Mais bon, bref, c'était juste avant de devenir journaliste, mais c'était littéralement mon premier job de faire des solutions de jeu. Et face au roi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, effectivement, le backseat de couple ou le backseat avec des gens, je trouve ça hyper agréable. Des fois, encore une fois, je ne veux pas spécialement jouer à un jeu vidéo. Par contre, j'aime bien regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo et discuter avec la personne et des fois l'aider. Et j'aime bien être le copilote. Je trouve ça plutôt agréable. Alors, c'est pas forcément de la solution. C'est plutôt des fois la personne elle connaît moins le jeu vidéo que moi, elle est code du jeu vidéo et en fait elle a pas vu que un truc tout bête, mais tu sais, quand t'es dans un open world, souvent la source de lumière va être un endroit où tu vas aller, tu vois, mais c'est des indications lumineuses que nous on commence à comprendre, ou alors des interrupteurs, ou alors des trucs de moteur physique. Donc j'aime bien aider là-dessus gentiment. Et voilà, c'est ma retraite de professionnel de la solution du jeu vidéo, quoi.
Et j'aurais te poser une question là-dessus que je me suis toujours posée. Pour les personnes qui font les solutions, comment fait la personne qui fait les solutions quand elle a besoin d'une solution parce qu'elle est coincée?
Je sais pas, mais chez JV, on les achète en avance les solutions et on a tendance à les pomper sévère.
Ouais. Donc moi c'était où j'avais de la moule et c'était le début d'internet et il commençait à y avoir certaines solutions en anglais où j'avais pas de moule et je me tapais des JRPG, des trucs des fois avec des énigmes. Je sais plus, il y avait un jeu sur la PS1 de Konami, il fallait passer par un désert avec du vent, il fallait comprendre le code du vent, sinon tu tournais en boucle dans le désert pendant des mois et des mois. Et là, bah, en fait, tu galères. Franchement, tu galères et tu t'armes de patience. J'ai fait les solutions des DLC de Tomb Raider. J'ai cru que j'allais péter un câble. Genre, orientez-vous à 13 degrés sur la brique jusqu'à que votre pied bug un peu dans le truc. À ce moment-là, prenez 3 pas d'élan. Enfin, c'était des trucs genre... Donc oui, c'était souvent un job hyper galère. Et en plus, tu devais aller vite. Parce qu'il y avait une demande dessus. Et donc, nous, on publiait littéralement en temps réel des fois les solutions. On les publiait genre page par page. Donc, des fois, les gens, ils débarquaient sur le service pour voir « Ah ouais, Tomb Raider 3 ou The Lost, je sais plus quoi. » En fait, ils arrivaient. En fait, ils attendaient de voir si le mec, il avait posté une page en plus. Donc, ils nous voyaient progresser en temps réel, quoi.
Et juste quand tu dis « Ken, on les achète », c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que les guides anglais ou japonais qui sortent avant, on les achète le plus rapidement possible. Les guides Pokémon, on les achète tous.
Tout à l'heure, j'ai parlé des fameux wikis, mais les wikis sont aussi parfois montés par les sociétés qui créent le jeu vidéo pour pouvoir créer une incentive en disant « Ah, le lore est trop bien », et voilà quoi.
Ouais, la plupart des guides officiels qui sont souvent super bien faits et qui apportent justement le lore, qui sont des beaux produits, souvent bien installés. Daz, on n'a pas besoin de Solus, nous, ici.
Non,
voilà.
Jamais fait ça de ma vie. Jamais. jamais fait ça de ma vie.
On va voir pour Return of Monkey Island.
Non, Zero Solus. Je joue à Police Quest 4, donc t'inquiète que les point and click éclatés avec des éléments de scénar qui puent la merde et
une logique des objets.
Et une logique complètement flinguée, et j'y arrive. Et le pire pour moi, c'était Discworld. Parce que c'était du Terry Pratchett, donc en fait, c'est des trucs qui sont pas logiques.
Myst, mec.
Non, parce que Myst, à la limite, c'est de la logique dure. Discworld, c'est n'importe quoi. C'est genre, il faut un filet à papillon pour attraper un nain avec une crêpe, tu vois. Donc en fait, à un moment donné, tu dis, bon, bah, tu commences à cliquer l'inventaire et à essayer de faire des combinaisons parce que ça ne veut rien dire.
Mais mec, j'ai fait ça avec tous les jeux d'aventure d'histoire.
Ah non, c'est horrible.
Moi, je cliquais sur tout le truc pour voir, ça se combine. Je cliquais sur tous les pixels de l'écran de Myst pour voir, c'était un truc. Mais tout le monde l'a fait, ça. Sur Myst, mon gars, tu sais, tu cliquais au pif sur les éléments en disant, bah, peut-être ça va faire bouger un interrupteur ou une feuille. Et c'était nul.
En fait, c'est vrai que, enfin, moi, je me suis toujours demandé déjà, les gens qui font les Solus sont-ils bons? Donc maintenant j'ai ma réponse, non. Après ouais, moi c'était plus un côté déjà c'était le Minitel, ça coûtait cher à l'époque. Les guides, bah, ça coûtait le prix d'un guide, donc ça me faisait chier de payer parce que j'étais pauvre et surtout j'étais un rat. Et après ouais, il y avait un côté un peu fierté, tu vois, comme quand t'es perdu dans un magasin et que tu sais que tu vas jamais demander au vendeur et que tu vas trouver tout seul, tu vois.
Ouais, t'es un genre de Dark Souls en fait.
C'est ça, mais dans la vie.
Je déteste demander au vendeur.
Ouais, franchement, je préfère me perdre une heure et demie dans le magasin que demander mon chemin.
Moi aussi.
Et c'est très con, hein.
Mais, c'est très con, en effet.
Mais ouais, non, moi, je suis pas Solusman. Mais après, je me posais la question, justement, est-ce que ça existe encore ? Donc, apparemment, oui. Parce que maintenant, tous les jeux, ils sont plus ou moins service. Tu vois, il n'y a pas une Solus pour Fortnite ou des trucs comme ça, tu vois. Tout
ah, ouais, c'est pas vraiment ça.
C'est pas tant des Solus, c'est plus des astuces, des guides de jeu.
Ouais, c'est des guides.
Comment bien jouer, comment bien débuter.
D'accord.
Normalement, le guide de jeu, mais c'est vrai.
Ah oui, d'ailleurs, c'est PC qui a fait bien débuter.
Ouais,
pour,
c'était vachement bien.
Bien débuter, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une Solus partielle.
Tout
fait.
À fait.
D'ailleurs, on n'a pas parlé des Solus de la vie, mais ça pourrait être utile. En fait, c'est Wikio, mais.
Ouais, lifehacker.com. Hein. Très bien, lifehacker.
Exactement. Tu disais, poser la question d'un jeu sans Solus. Franchement, moi, je joue à beaucoup de puzzle games. Il n'y a aucune Solus dedans.
T'as des guides.
Mais il n'y a même pas de guide parce que les tirages sont tous aléatoires. En fait, la solution, c'est joue bien.
Oui, non, mais non, la solution, c'est ok, apprends à faire un escalier dans Puyo Puyo. T'as comme des guides.
C'est des guides de jeu, mais c'est pas une solution. Ça va pas t'aider à gagner.
Oui, hein. C'est des guides. Ouais, ça.
Donc c'est vrai que c'est souvent le cas.
J'ai peut-être trouvé le jeu vidéo sans Solus.
Sans Solus.
Ouais.
Et, tu vois, ça, en plus, il est dans le univers, dans le quête latérale univers Wardle.
Ah, Wardle, on n'en parle plus d'ailleurs! On n'en parle plus!
Mais pourquoi il en parle? Le mec, il est trop occupé à se faire bronzer le cul avec ses 5 millions de dollars, il s'en fout.
Non, mais bien
il
sûr
s'est fait racheter une semaine après la chronique et il était là, il l'a fait pour sa femme, c'est trop mignon! Et maintenant, on les voit plus, vos mosaïques Wardle, c'est terminé!
Non, peut-être,
non mais en plus, il y a des solus là. Tu sais qu'en français, tu dois attaquer avec adieu oui, parce qu'il y a un max de voyelles, etc. Donc, snort en anglais.
Il y a des openers, voilà. Pour ma part, c'est vrai que comme Daz, jamais utilisé de Solus de ma vie dans les années 80-90, même début des années 1000. Non, la première fois où j'ai commencé à utiliser des Solus, souvent j'ai pas d'argent pour les acheter. La première fois où j'ai commencé à utiliser Solus, c'est quand j'ai voulu vraiment jouer à beaucoup de jeux de combat différents et j'allais sur GameFAQs à l'infini, mais uniquement pour trouver la command list des jeux. Parce que j'étais tous sur émulateur et la command list n'était pas à l'intérieur des jeux vidéo dans les vieux jeux, donc j'allais chercher la command list des persos ici. Et sinon, c'était quasiment tous en Solus, sauf. Bah maintenant, dans la vie moderne, j'ai juste plus le temps. Le moindre jeu qui me pose le moindre problème à la con, parce que tu dois parler trois fois à un PNJ, je ne veux même pas en entendre parler. C'est Solus direct, ouais, c'est instantané. Ouais. Je sors le téléphone, je fais faut faire quoi une heure à perdre, faut faire quoi.
Tu fais ça sur Pokémon ?
Ah, je fais ça sur Pokémon, si jamais ça m'arrive sur Pokémon. Bon, c'est jamais arrivé sur Pokémon, c'est vraiment trop facile. Mais Xenoblade Chronicle, mais. Toutes les heures, je sors la Solus.
Refais ce mouvement là de. Ok, je m'excuse.
Parce qu'en plus, des fois, c'est pas logique, c'est juste chiant.
Mais c'est ça, c'est chiant. Faut aller parler à un PNJ qui a même pas le pointeur dessus.
C'était quoi,
des fois, il y a le pointeur, des fois, il y a pas le pointeur.
Ken, je crois que c'était dans le Chrono Trigger. Qui avait un truc où il fallait arriver à un endroit, faire 21 fois le tour du truc pour faire apparaître.
Ouais, pour faire disparaître un bloc.
Les mecs en japonais, alors, comment tu veux
alors,
si tu
sais, ça fait rigoler les mecs qui l'ont conçu. C'est comme Myst, ça fait rigoler les mecs qui l'ont conçu.
À ma décharge, la plupart des. sortie de Solus aurait pu être évitée en lisant le texte.
Attendez, on le juge.
Je l'ai dit. Je n'ai pas le temps de lire les textes étant donné que.
Ah, il y avait marqué 21 quelque chose, mais je sais pas quoi.
Je suis la princesse avec des pouvoirs, je les ai perdus. Tais-toi, m'en fous de ta vie.
Le mec, il fait un RPG sans le scénario.
Mais oui, moi, je veux le système de jeu. C'est quoi la combinaison de magie là pour faire le plus grand de DPS, etc. Voilà. Et un jeu avec lequel je ne peux pas jouer sans solution ou internet, bah c'est les Dark Souls. Moi, c'est mon Monster Hunter, tu vois. Monster Hunter sans internet, t'oublies. C'est impossible. Parce que c'est impossible de trouver les bonnes parties d'armure tout seul pour combiner les bons skills, machin. Donc, faut des solutions pour des trucs comme ça. Les Diablo, les machins, les trucs comme ça. Même aujourd'hui, Hearthstone et deck build, machin. Ta chronique sur le dead build, le dead build, c'est ma vie. Le dead build, c'est ma vie. Aujourd'hui, le dead build, c'est ma vie. C'est la première chose que je cherche, c'est dead build. C'est ça, ok, alors je fais ça et je plie le jeu, rien à foutre. Voilà.
Mais sur les solutions années 90, on n'a pas de sous. Rassurez-moi, j'étais pas la seule à aller chez le marchand de journaux.
Oui.
Et d'aller juste lire. Non! Acheter, mais t'es fou.
Non, j'achetais.
Pourquoi acheter alors que tu peux feuilleter?
Mais moi j'avais un libraire, il disait si vous achetez pas, vous lisez pas. Voilà, donc en fait on pouvait pas le faire.
Je voulais juste voir un petit paragraphe de jeu.
Du coup, on était obligé de voler les magazines, ce qui est dommage.
Il y avait jamais les solutions des jeux auxquels je jouais moi.
C'est arrivé dans la partie astuce en espérant qu'il y ait ton jeu dedans.
Ouais.
Que chier.
Dans Joystick, il y avait des faux jeux. Des solutions de faux jeux, mais bon.
Mais je me souviens, j'ai fait le 101% et le 102% dans Donkey Kong Country. Le 1 et le 2, ouais. Tout seul. Voilà.
Ok. Donc, tu t'es fait chier, mon
non,
gars.
Juste.
Toi, t'as passé des longs étés seul.
Naturellement. Ah, naturellement, parce que le jeu est bien fait, parce que quand le stage est terminé à 100%, il y a un point d'exclamation dessus. Donc, je savais très bien que j'avais juste à refaire le stage, à trouver le secret dedans, et voilà, point final. Et j'avais le 100%. En fait, quand les jeux sont bien faits, il n'y a pas besoin de solus.
Ok, c'est
un formidable
c'est très belle conclusion.
Vous avez entendu les développeurs de jeux.
Merci en tout cas, Fibrotique, on va marquer la première pause. Et attention, hein, première pause qui va être chronométrée, hein, puisque vous avez 6 minutes évidemment pour participer et répondre à la question que je vais vous poser. Question posée évidemment sur le Twitter de qualité. Vous allez entendre ce son une fois que nous n'aurons plus de temps pour cette pause, car on nous a dit, les pauses sont trop longues. C'est terminé, il faut accélérer. Première question Twitter d'internaute, évidemment, d'auditeur. Formidable ici, de qualité. Et si cette phrase est très longue, c'est parce que je ne retrouve plus la question. Vous avez bien entendu tout compris.
Le chrono est lancé ou pas
là, compris. Non, mais j'aimerais bien le format idéal de la question.
On a perdu 25 secondes.
Quelle licence de jeu vous plairait-il beaucoup de voir dans un genre qui n'est pas le sien? Voilà, par exemple, je ne sais pas, un Street Fighter platformer. Clou.
Alors, FIFA, où on gérait la carrière du joueur, non pas sportive, parce qu'on s'en fout.
D'influenceur.
Ça, ouais, exactement. L'entourage.
Un jeu d'entourage.
C'est
génial.
En couverture de la première émission, le grand frère Pogba.
Ah, oui.
en cover du premier type entourage.
Quel enfer.
Avec les frères Vérel au dos de la jaquette.
Mais 2K Games, vu comment ils cassent les couilles à tout le monde dans NBA 2K, ils seraient capables de le faire pour un jeu de foot. Hein,
punaise.
La carrière où tu joues même pas au jeu.
C'est vrai que c'est eux qui vont récupérer. Hein.
C'est chiant. C'est chiant.
Non, mais c'est logique, c'est une excellente idée.
Fibre Tigre.
Alors Street Fighter.
Oh non.
Mais en deck building game.
Bah ça existe. Déjà existe.
Multijoueur.
Ça existe déjà.
C'est vrai, en versus fighting. Ouais. Bah, il s'appelle comment?
Ça s'appelle SNK versus Capcom Card Fighter.
Ok,
Clash.
D'accord. Alors, en deck building, un petit wargame. Mais en fait, j'aimerais bien jouer à ce SNK. Non, je pense.
Un jeu Neo Geo Pocket. Ouais, je t'invite à le tester. Ressorti sur DS, je crois.
Non, j'aimerais bien un bon jeu de wargame où tous les combats se font en deck building.
Voilà. Un jeu de wargame où tous les combats
aujourd'hui
sont
de toute façon tout
mais
monde...
sur la licence Street Fighter.
Je veux dire quelque chose. Slay the Spire est arrivé, il nous a tous contaminé la tête. Voilà, on a tous envie de faire du tech.
Il nous a tous contaminé ta tête.
Non,
j'ai jamais joué à jeu de ma vie.
Jamais touché non plus.
Franchement c'est top.
Vous avez vu le nombre de deck building like indé qui sortent? Il y en a plein,
c'est hallucinant.
À toute la sauce, tu vois, parce que en fait il nous a matrixé, tu vois. C'est pas qu'on en a toutes les sauces, c'est pour ça que même moi je n'en fais pas. Tu vois, aujourd'hui, je ne fabrique
ça t'a
pas de jeu.
Saoulé, quoi.
Mais non, j'ai trop envie de faire un jeu de deck building. Je veux faire mon jeu de deck building, tu vois. Street Fighter ou Wargame, mais voilà, je ne peux pas. Je ne vais pas prendre les 6 minutes, là, donc voilà.
Terrible Daz.
Aucune idée.
Oh non,
non toi, pour toi, en train de... les jeux sont parfaitement
dans leur genre. Street Fighter Point and Click.
J'étais en train de réfléchir et franchement, à part des trucs style un Mario en FPS ou des conneries comme ça, ce qui existe déjà, puisque c'était Jumping Flash sur PlayStation et ça faisait dégueuler tout le monde. Non, j'ai pas de... Je trouve que les jeux qu'on me propose dans leur format actuel me satisfont.
Oh, pop, la Mua.
Bah moi, il a failli être réalisé. J'étais fan de StarCraft et je m'étais dit putain, le jour où ils font un jeu d'action StarCraft,
aïe, aïe, aïe.
Avec tout le bestiaire de ouf qu'ils ont, les décors. À l'époque, pour un jeu de stratégie, le lore était hyper intéressant, il était crédible et tout ça. Et je rêvais qu'ils fassent un jeu première personne, troisième personne StarCraft. Il a existé. J'ai même été le tester à l'époque. J'étais en press tour pour le voir et tout. J'étais là genre bon, ça peut le faire. Et ça s'est jamais réalisé. J'étais un peu deck.
Finalement, il y a eu Halo.
C'est une des annulations les plus célèbres de Blizzard, oui. Le StarCraft Ghost.
Oui.
D'accord.
Mais à l'époque, c'était un peu le rêve. Tu vois les Overlords passer. Les Overlords, c'était la taille d'un zeppelin de 25 mètres de long, de chair qui se balait dans le ciel. Donc, dans le genre, ah oh là là, c'est l'univers que j'adore. Avec un twist dans un autre genre, et ça le fait, tu vois, j'ai jamais vraiment fait le deuil de ce StarCraft.
Et t'as pas fait Halo, parce que Halo, c'est StarCraft en FPS.
Oui, mais c'est pas StarCraft. Ouais. Bien sûr, non, mais t'as plein de FPS de l'espace. D'ailleurs, Halo, elle fait le chemin inverse, parce que t'as un jeu de stratégie Halo, tu vois. Mais j'ai un petit regret éternel sur ce StarCraft, même si, de ce que j'avais vu, il aurait pas révolutionné le genre, quoi. Tu sentais que Blizzard, c'était pas bon là-dedans, mais bon. J'espère toujours un jour d'avoir un truc là-dessus.
Genre Overwatch ?
Non, mais...
En TPS ?
Non, à l'époque, c'était un Halo.
Genre World of Warcraft, en fait ?
Genre
World of StarCraft ?
En fait, tout le monde rêvait d'avoir un WoW, un MMO dans l'espace. En fait, c'était Projet Titan qui était un MMO SF, tu vois, mais qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, je suis un peu triste. Je vais garder celui-là, moi.
Je comprends. Personnellement, moi, je veux que tout devienne un jeu de baston. Donc, imaginez League of Legends en jeu de baston, ce serait fou quand même.
Ça serait incroyable.
Ce serait vraiment incroyable. Par contre, j'espère qu'ils auront l'idée un jour.
C'est dans Street Fighter 6 que maintenant il y a un hub où tu dois te balader dans la ville. Bravo.
Dans la ville. Enfin, il y a un mode histoire où tu as une ville dans laquelle tu peux te balader. Ouais.
Alors que Wardle en jeu de baston.
Et ouais. Bah ouais, mais les jeux de combat, ce sont des beats et maul en 1v1. Donc c'est logique de mettre des beats et maul dans les jeux de combat normalement.
Et dernier petit jeu aussi, vraiment qui est pour moi un cas d'école du jeu qui n'avait rien à voir avec son genre initial tout en étant dans son genre initial. Typing of the Dead, chef-d'œuvre.
Ah, chef-d'œuvre absolu.
Ah ouais.
Un rail shooter, je vous rappelle, où en fait il fallait taper les mots le plus possible au clavier pour apprendre à mieux taper au clavier pour shooter les zombies au lieu de les viser.
C'était Sega qui
était Sega. Ouais, c'était un truc officiel. Hein.
On a plein d'autres.
C'était génial. Keyboard, c'était décalé et c'était top.
Keyboard No Ken, un jeu Okuto No Ken où tu dois taper les noms des attaques de Okuto No Ken au clavier.
Attends, c'est quoi le Rhythm Game Okuto No Ken qui a fait le State of Play il y a 15 jours là ?
Je ne sais pas à quoi tu parles. Merci en tout cas pour avoir répondu à cette question. Ça fait plaisir. On va stopper la pause et attaquer la deuxième chronique. C'est avec Chloé qui va se poser la question si nous allons devoir arrêter le jeu vidéo pour payer nos factures. Jouer ou se chauffer, il faut choisir.
Ouais, désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance. Hein.
Oh là là.
La fin de l'abondance.
Exactement.
Grave.
Non, parce que lors du dernier quête latérale, il me semble que justement, il y avait un auditeur qui nous avait posé la question de savoir si on pensait que la crise économique allait avoir un impact sur les ventes de jeux vidéo. Et je me rappelle qu'on a tous répondu, moi la première,
non.
Et en fait, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que trois mois plus tard, mon avis a quand même pas mal évolué.
Trois mois plus tard, j'ai des chiffres.
Trois mois plus tard, il y a des choses qui se sont passées. Parce que je crois qu'au cours de l'été, on s'est tous un peu rendu compte, enfin aussi depuis début septembre, on a tous pris conscience de l'inflation. Perso, moi, je l'ai vu surtout sur tous les lieux autour de mon travail pour manger le midi.
Ah ouais. Alors,
c'est simple, hein, les menus midi, ils ont tous pris entre 1 et 3 euros.
Sérieux ?
Ah ouais. Non, mais c'est une violence absolue. Et c'est devenu impossible de manger pour moins de 10 euros, à moins de manger, de squatter le McDo tout le temps.
Wow.
Et on se disait d'ailleurs avec une collègue qu'on allait tous maigrir, vu qu'on allait tous arrêter de prendre des desserts le midi, vu que ça alourdit la note entre 5 et 6 euros dans mon quartier.
Tu prenais des desserts ?
Oui, attends.
Eh ben, Sophie Garo.
Ah, d'accord.
Il y a un standing.
Et surtout, nos tickets resto, ils sont désormais vraiment hyper loin de suffire pour couvrir tout le repas. C'est, du coup, c'est, ça m'a vraiment marqué depuis que j'ai repris le boulot en septembre. Et d'autres l'ont vu dans les supermarchés, avec des hausses spectaculaires de prix pour certains aliments comme les pâtes, l'huile, le poisson. Bon, moi, à Paris, les prix sont déjà tellement pétés que je vous avoue que ça ne m'a pas vraiment sauté aux yeux. Mais j'imagine que pour pas mal de nos auditeurs, l'annonce du prix en caisse du plein de courses a dû faire bien mal.
Claire.
Et on nous prépare à la hausse de nos factures d'énergie pour cet hiver. En France, on a quand même un petit peu de chance. Les tarifs sont régulés et la hausse ne pourra pas dépasser 15%, ce qui en soi est quand même beaucoup.
Tu m'étonnes.
Mais voilà, ça ira pas plus que 15%, parce qu'il faut réaliser qu'ailleurs en Europe, ce sera sûrement pire. Et la consigne, vous l'entendez, elle est là. On nous le répète, on va nous le répéter de plus en plus. Ça va être d'être sobre dans notre consommation d'énergie cet hiver et de réduire voilà, toutes les consommations un petit peu inutiles.
Comme le couloir qui est allumé depuis tout à l'heure, ça me trigger.
Exactement, comme la lumière allumée. Parce que, bah, non pas pour qu'on ait moins à payer, mais surtout pour éviter un scénario catastrophe où on serait obligé, on étant l'État, de couper temporairement l'électricité dans certaines zones parce que, bah, on a un problème, comme vous savez, pour cet hiver, ça va être compliqué, l'acheminement énergétique. Bref, le mood n'est pas des plus positifs en cette rentrée. Et cela va sûrement s'aggraver dans les semaines à venir. On va tous être beaucoup plus vigilants sur nos dépenses. La question centrale pour les industries du divertissement, c'est de savoir si les consommateurs vont décider de réduire leurs dépenses dans les loisirs ou au contraire, les conserver parce que quand même, il faut se faire plaisir.
Bah ouais.
Ce qu'on voit déjà pointer dans l'univers des plateformes vidéo, c'est que les spectateurs qui, bon, se partageaient déjà leur code pour les abonnements Netflix, Amazon et compagnie, et ben maintenant, de plus en plus, ils commencent à jongler d'un service à un autre. En fait, ils lancent un abonnement pour regarder une série en particulier. Une fois que c'est fini, on passe au suivant. Donc, par exemple, Ring of Power, si tu es un consommateur intelligent, tu vas attendre que la série soit terminée.
Bien sûr.
Tu vas prendre le mois gratuit ou très réduit à Amazon Prime. Hop, tu le regardes, tu coupes ton abonnement immédiatement, tu fais pareil sur OCS pour regarder House of the Dragon, et comme ça, hop, tu jumps d'un service à un autre sans rien dépenser. Et d'ailleurs, House of the Dragon, c'est une excellente série, regardez-la.
Oui, alors que Ring of Power, on se fait chier quand même.
Amen.
C'est différent.
Amen.
C'est différent, mais
House of the Dragon... ne les écoute pas. Prime, nous t'aimons, voilà.
Et le jeu vidéo, lui aussi, bah, il est touché par l'inflation. Vous avez sûrement vu cet été que Sony haussait de 50€ le prix de la PlayStation 5.
Lunaire.
Voilà, de mon vivant, je n'ai jamais, jamais, jamais vu une console qui augmente de prix pendant voilà, toute sa carrière commerciale. Je ne comprends pas trop ce qui est passé dans la tête de Sony, qui n'est pourtant pas plein de côté profit. Là, cette année, il prévoit 6 milliards de bénéfices nets pour l'année fiscale en cours. Enfin, si, en fait, j'ai bien une idée. Les prévisions financières pour la branche jeux vidéo ne sont pas aussi bonnes qu'espérées, car les rachats pèsent lourd sur les comptes, Bungie par exemple. Les achats de jeux vidéo, ils ont ralenti depuis le Covid, parce que, incroyable, les gens sont retournés au travail. Et tandis que la production de PS5, bah, c'est pas, toujours pas la hauteur de la demande. Donc on se dit, on augmente un petit peu le prix de la console et tout va bien.
80 balles les jeux quand même.
Eh ben j'y viens. Côté jeux, donc ils avaient déjà annoncé la couleur dès 2020 pour dire non, les gros jeux Sony sur PS5, c'est 80 balles. La nouveauté que je viens de remarquer, c'est que les autres éditeurs, ils sont en train d'emboîter le pas.
Non.
Ubisoft, ils ont prévenu là ce mois-ci que maintenant les gros jeux, leur gros jeu à eux, c'est 80 balles.
Oui.
Effectivement, Skull and Bones, j'ai vérifié, c'est 80€.
Mais sur PlayStation ou
sur PlayStation 5.
Sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Xbox Series. De...
Mais pas sur PC.
80
balles.
Bon, bah,
sur PC, t'as toujours 10€ de moins.
L'honneur est sauf.
Et idem chez Activision pour le prochain Call of Duty qui est à 80€ sur PS5 mais aussi sur PS4.
Et non,
oui. Sérieux?
Ah, les chiens. Ah, j'ai regardé sur Micromania. Micromania étant la fourchette haute du marché.
Là, c'est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse.
On va à 80€ le prochain Call of Duty sur PS4. Et la même chose chez EA pour FIFA 23 qui est à 80€ sur PS5 et 70 sur PS4.
Sachant qu'en plus, FIFA, les gens qui jouent à FIFA FUT, ils mettent de l'oseille dedans.
Oui, ils continuent encore à mettre beaucoup d'oseille dedans.
C'est n'importe quoi. Il devrait être gratuit, ce jeu, en fait.
Alors, on arguera que le tarif des jeux vidéo sont restés plutôt stables ces 15 dernières années, et qu'une telle augmentation n'est pas déconnante quand on voit combien ça coûte de faire un AAA en 2022, et que rapporté au coût par minute, ça reste meilleur marché que le cinéma. Mais
le fameux
le fameux coût par minute. Mais putain, merde, c'est cher. C'est cher. Un jeu à 80 euros, ça représente une journée de travail pour une personne qui est payée au SMIC.
Oh la vache.
J'ai fait le calcul, j'ai sorti la calculatrice.
Ah ouais.
Ouais. Oh. Bref, est-ce que des nouveautés vendues 80 euros se vendront autant dans le contexte économique actuel? Selon les spécialistes, clairement, la réponse est non. Le cabinet NPD, qui mesure le marché du jeu vidéo aux États-Unis, donc c'est vraiment un cabinet qui fait référence, ils estiment que les ventes de jeux vidéo aux États-Unis vont reculer de 9% cette année.
Okay.
Et bon, pour vous donner une idée, entre 2019 et 2021, le marché aux États-Unis, il a fait plus 40%.
Ouais. Donc on est quand même sur la base de coup, on est quand même bien dans le positif par rapport à un petit moment. Voilà. Okay.
Ah ouais, mais quand même, c'est qu'on n'a même pas ralenti la croissance, c'est que l'on passe d'une grosse croissance à une baisse.
À une baisse. Et donc, je cite NPD, « Le court terme devrait rimer avec turbulence, incertitude et déclin.
Oh. »
Déclin.
Déclin.
Oh, c'est bien ça.
Pour le marché. Mais après, ils disent, bon, après, ça va repartir. Ils ont... Sur le long terme, ils ont... ça va continuer à grimper,
On sait quelles sont les licences qui font qu'il y a eu 40% entre 2020 et 2021. C'était quoi? Juste les nouvelles consoles?
Bah, en fait, c'était les nouvelles consoles, c'était le Covid. Le Covid a fait exploser l'usage du jeu vidéo et voilà, plus les microtransactions. Ça a fait un écosystème hyper vertueux. Et là, du coup, ça se grippe un petit peu. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de payer moins cher. On le sait, sur Amazon, Fnac ou Leclerc, Carrefour, les jeux vidéo ne sont jamais vendus au tarif fort à leur sortie. J'ai vérifié, journaliste jusqu'au bout.
Allez.
voilà, FIFA et Call of, sur ces sites-là, c'est 65 euros en version PS5 au lieu de 80 euros, avec en plus genre 20 euros, 10 euros sur votre 4 Fnac, etc., etc. Mais bon, ça reste quand même plus cher que les années précédentes, où on tapait plutôt dans les 55 euros, voire 50,
ça a pris 10 euros quand même, tu vois.
45. Oui. Voilà, donc ça a pris quand même 10 balles de différence par rapport à l'année dernière. Autre conséquence, je pense aussi que sur PC, les sites de vente de clés venus d'où ne sais où vont connaître un sacré regain d'intérêt.
Instant gaming.
Voilà, puis il y a aussi beaucoup de joueurs qui savent être patients et qui attendent les promos et qui vont peut-être continuer encore plus les promos. Parce qu'on le sait, le prix d'un gros jeu Ubisoft, ça dégringole quand même hyper vite.
C'est vrai.
Le Samsung du jeu vidéo.
C'est ce que j'allais dire. 100% ça.
Mais la question, en fait, c'est malgré toutes ces... Voilà, ces astuces existent, elles sont déjà là, on les connaît tous. Mais la question, c'est est-ce que les joueurs garderont un budget jeu annuel identique même lorsque leurs factures et leurs pleins de courses vont exploser? Et aussi, est-ce qu'on ne va pas sortir la calculette pour savoir combien ça coûte en électricité des sessions de jeu sur un PC haut de gamme ou sur une télé 4K HDR classée G en consommation électrique?
C'est pas faux.
Je me demande aussi si la situation ne va pas profiter au Game Pass et affiliés. Parce que après tout, 13 euros par mois pour un catalogue qui comprend beaucoup de nouveautés, c'est super intéressant si on est un gros joueur ou si on a aussi, on est joueur, on a des enfants qui jouent aussi. A priori, tout le monde va pouvoir trouver son bonheur.
Avec le compte famille qui arrive.
Et exactement. Et un Skull and Bones sera accessible via Ubisoft Plus, qui est à 15 euros par mois avec 19 jours gratuits. J'ai fait le calcul. Si vous faites, ça vous reviendra moins cher de passer par Ubisoft Plus si vous jouez 5 mois ou moins à Skeleton Moats que de l'acheter plein pot.
Putain, c'est un truc de ouf quand même.
C'est ce qu'on a fait avec Battlefield, vu qu'on a joué 2 semaines.
Voilà.
Origine.
Bref, je pense que les prochains mois vont être hyper intéressants à observer, mais là, c'est la journaliste économique qui parle. Et je me demandais, messieurs, du coup, si vous pensez que vous allez devoir réduire vos dépenses dans les jeux vidéo dans les semaines et mois à venir.
Très bonne question ici. Alors, évidemment, on n'a que des gens extrêmement fortunés sur le plateau, donc je vais m'adresser à Daz d'abord.
Ouais. Alors moi, je suis team Pôle emploi, mais en fait, en écoutant ta chronique, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui budgétaient le jeu vidéo à l'année, chose que je n'ai jamais faite. Donc en fait, j'en sais foutre rien. Voilà. C'était mon input.
Donc, tu ne changeras pas tes habitudes personnelles.
Bah non, parce qu'en fait, je suis pas non plus dans une consommation frénétique de jeux. C'est vrai qu'on a tous un backlog gigantesque. Tu vois, là, j'ai relancé Homeworld 2. Le jeu est sorti en 2003, tu vois. Donc, en fait, Alors, j'ai acheté Return to Monkey Island Day One. Mais je pense que je vais pas faire ça tout le temps.
C'est un jeu à 40 euros,
mon Return. Non, 22 euros.
22.
Ouais.
22 euros. 22 euros. C'est pas cher.
C'est pas cher.
Fibre.
Team Radin, moi.
Donc, Team Radin, normal, c'est comme Radin, ça qu'on devient riche.
Radin avec Game Pass. Mmh. J'ai plusieurs remarques. D'abord, l'euro s'effondre face au dollar. Donc, effectivement, un jeu à 80 dollars, avant, il faisait 60 euros chez nous. Maintenant, il fait plutôt 80 dollars, 80 euros. Et je pense que, effectivement, le marché il est plutôt indexé sur le dollar. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas trop de.
Je crois qu'un jeu à 80 dollars, il n'a jamais fait 60 euros chez nous.
Bon, peu importe. Enfin, peut-être autant de trappes.
Il a 70 dollars hors taxe.
Mais la bonne nouvelle d'Az, c'est que grâce au dollar, tu es plus payé par Twitch. Mais bon, peu importe.
Oui, ça, j'y ai pensé, Philippe.
Moi, je me souviens d'un slogan de Canal Plus en 84. Parce que Canal Plus se lance. Et en un an, ils ont 3 millions d'abonnés à l'époque. Et ils ont dit, plutôt que de partir en vacances, achetez Canal+, vous aurez tous les matchs de la Ligue 1 et un film de cul par mois. Et
ça s'appelait pas Ligue 1 à l'époque.
Ça, ouais, et ça a trop bien marché. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait le calcul et ils ont dit, tu sais quoi, en vrai, j'ai pas besoin d'aller en vacances. Si j'ai du foot et du cul, j'en ai pas besoin, tu vois. Et je pense que dans un scénario qui n'existe pas, dans un scénario où vraiment on crève de faim, tout ça, etc., il y a quand même des gens qui achèteront des jeux, qui achèteront FIFA. Je veux dire, même moi, je veux dire, même si le jour où je suis dans le grand dénuement, je pense que j'achèterai Red Dead Redemption 3. Tu vois, c'est parce que c'est aussi important pour moi que de manger. Tu vois. Après, les autres jeux, les non incontournables. Moi, par exemple, FIFA ne fait pas partie du tout des incontournables. Voilà, je le passerai. Mais effectivement, j'ai 3 incontournables par an, pas plus. Donc, ça fait 3 fois 80 et ça ne me pose pas tant de problèmes que ça. Après, comme tu l'as dit, Skull and Bones, par exemple, moi, je vois plutôt une stratégie du style.
Ils vont être prenez sur le l'abonnement.
Ils vont être sur le Game Pass, simplement. Et ils vont même faire un partenariat avec Sea of Thieves, un truc comme ça. Quoi, voilà.
Ah ouais?
Pourquoi pas.
Vous l'aurez entendu ici en premier. Oh là,
c'est entendu ici en premier. Là,
c'est ce que je ferai.
En budget. Écoutant la chronique de Chloé, alors moi j'ai un budget plutôt faible en vrai, parce que comme la plupart d'entre vous, je suis plutôt team sol parce que j'ai un bac catalogue trop important. J'ai été aussi un enfant gâté, j'ai bossé pour des sites et des magazines de jeux vidéo longtemps, donc j'ai eu accès à beaucoup de jeux, etc. Et donc des fois maintenant, j'achète un jeu Day One parce que j'ai envie de soutenir l'éditeur, ou voilà, là j'ai acheté Rogue Legacy 2. Quand il est sorti, parce que c'est une petite team, ça me fait plaisir, et voilà. Mais en fait, quand j'ai écouté la chronique de Chloé, j'ai vu surtout la métaphore à 100% avec le milieu du cinéma. Mmh. Où maintenant, le milieu du cinéma, et le prix d'une place. Mmh. Moi, j'étais au cinéma l'autre fois dans une petite salle d'un UGC.
C'est
là,
14 balles, ouais.
J'ai payé 27,80€ mes deux places.
C'est 13€.
Pour aller voir un petit film coréen dans la plus petite salle de l'UGC Cinécité. Et toujours la même chose, on me dit, mais prends l'abonnement illimité, parce que tu payes l'abonnement illimité à 19,90€. Là, un seul film, tu en as pour 14€. Et en fait, on se rend compte que le business maintenant du cinéma, ce ne sont pas les places, c'est de vendre des pop-corns, des boissons, etc. Ouais. C'est là où ils font de la marge. Et en fait, le jeu vidéo, j'ai l'impression que de la même manière, on nous dit, mais attends, mais achète pas des jeux à 80€ qui servent en fait d'épouvantail de la même manière. Prends achète un Game Pass. Bah ouais. Et derrière, évidemment, on va te vendre des microtransactions là et du service. Là, on fait le plus de marge. Donc, j'ai vraiment l'impression que le marché du jeu vidéo se dirige à 100% vers le business model du cinéma là-dessus. Et la crise aidant, la hausse, on n'a pas attendu l'inflation, on n'a pas attendu l'Ukraine pour que Sony et les autres tentent et 2K Games tentent le jeu à 80€ ou à 70$ hors taxe. Donc je pense vraiment, pour moi, théorie économico-complotiste, que c'est un épouvantail fait pour nous pousser vers l'abonnement.
Ça marche, sauf pour la PlayStation 5 à 50$, sauf s'il y a une dématérialisation de la PlayStation.
Parce que Sony, encore une fois, on sait que Sony, ils font les Japonais, donc ils sont vraiment hyper conservateurs sur des changements de paradigme. Et effectivement, Sony s'accroche à son triple A solo narratif à 70€ comme une moule s'accroche à son poteau. Même Sony est en train de changer ces derniers temps.
Vision plus américaine, hein, quand même, en vérité.
Dématérialisation des consoles, je rigolais il y a deux secondes, mais moi je joue sur xCloud maintenant, donc en vrai, est-ce que j'achèterais une console de prochaine génération?
Imaginez, pas si sûr. Vous n'avez même pas 500€ à mettre dans votre prochaine machine, l'argent que vous avez pour acheter des jeux.
Ouais.
Donc,
ouais, bien sûr.
Bah justement, parce que comme je sais qu'on a quand même des profils tous très spécifiques, j'ai demandé aussi sur Twitter en fait à mes followers, genre comment est-ce que vous voyez l'évolution par rapport à ce que vous allez pouvoir continuer à acheter autant de jeux? Et j'ai quand même pas mal de monde qui m'a répondu pour dire non, désolé, les jeux à 80€, c'est plus possible. Donc, ce sera peut-être un par an. Vraiment, le truc que je veux absolument, je veux l'avoir Day One. Et le reste, ce sera solde.
Skull and Bones à 80, il faut vraiment aimer les pirates. Il faut vraiment être affamé.
Le mec qui paye son Ubisoft Day One en râlant qu'il a payé son Ubisoft Day One.
Non, mais
j'ai
avoué que j'étais en otage. C'était le syndrome de Stockholm.
En vrai, je crois qu'à 80€, j'ai fait une fois dans ma vie, c'est FF7 Remake. Là, j'ai acheté la version de luxe à 99€. J'en avais déjà parlé ici. Et j'ai joué et j'ai dit, j'aurais dû attendre 3 mois et le payer 40.
Bah justement, il y avait quelqu'un qui m'avait répondu un truc hyper intéressant sur le fait des achats Day One et qu'en fait, comment les bonus de précommande ou bah, les éditions collector qui seront très difficilement trouvables derrière poussent en fait les gens à acheter au plein pot, voire même plus, pour bah, des bonus quand même qui souvent sont un peu nullissimes. Mais bah, du coup, ils sont là, oui, mais tu vas avoir tes bonus Day One, donc tu les achètes tout de suite, alors que si tu avais patienté 3-4 mois, bah, y aurait déjà une première décote de 25%.
Ouais.
Et que bah, voilà, enfin, cette personne-là disait, oui, bah, du coup, on devrait peut-être un petit peu plus y réfléchir maintenant. Est-ce que voilà, je préco ou j'attends sagement, prenant peut-être le risque ben qu'il y en ait plus ou que en tout cas si je veux absolument la version physique ben il y en aura plus.
Ah, c'est vrai que les changements de fin de d'échelle sont énormes. Hein. Moi les jeux principaux que j'achète neufs c'est le Switch et ils sont à 59,9. Oui. C'est 59,9.
Hein, ça descend très lentement.
Et hein. Ça descend pas beaucoup.
Ouais.
Donc,
ça descend pas.
Pour les Nintendo voilà. Non mais pour les autres oui. Donc ouais. T'as des soldes oui. Et tout mais les jeux Nintendo.
Mais je pense que je veux dire Breath of the Wild en 2022 tu le paye 59,99€ sur Nintendo Shop. Hein.
Généralement, mes jeux Switch, je les top à 47€. Voilà, ouais. C'est à peu près ça que j'ai, soit en retail physique, soit en démat avec les offres bons de coupons de réduction. Et ça, c'est pour moi, je me dis, le prix d'un jeu vidéo. 80€, jamais je pourrais mettre. Et pourtant, j'ai les moyens de le faire. Mais psychologiquement, jamais ouais, je me dis, j'achète un jeu vidéo 80€, jamais. Parce que je sais même pas si je vais pouvoir le terminer, je sais même pas si vraiment je vais pouvoir le faire. Je préfère payer 8 mois de Game Pass que j'utilise jamais. C'est débile, hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas résilié mon abonnement Zwift alors qu'il fait beau et je joue pas à Zwift. Toi, c'est complètement con que de payer 80€ un jeu. Ça me
Je pense que c'est vraiment la barrière psychologique là. Là, ils l'ont atteinte en fait. Ils auraient dû rester en dessous. 75, 70, 72, 99, tu vois, mais ouais. 80, c'est pas possible. Mmh. Quelqu'un fait pipi à l'antenne.
Après, tu vois, j'entends de nombreuses personnes qui ont acheté là, le DLC de God of War, 51€, tu vois, chez Auchan, ils peuvent l'avoir, hein, donc c'est possible.
Le DLC de God of War, c'est quoi ?
Ragnarok.
Ah, le DLC.
Ça touille, ça touille.
Quel troll, avec
ça touille, Verdier. Mais il a raison.
Donc, mais non,
51€ God of War.
Voilà, 51€ PS5 God of War, tu peux l'avoir à 51€.
Ah,
mais
okay.
Fut une époque où j'achetais ces jeux-là 42.
Ouais.
Voilà. Et c'est ça la vérité.
Le sens
donc,
de la vie.
Vraiment, c'est vraiment plus cher. Mais oui, si tu veux, tu peux. Si tu acceptes d'avoir 3 heures d'installation de ton lecteur Blu-ray qui fait un boucan du diable sur ta PS5 que tu as réussi à trouver chez un scammer, tu peux toujours payer moins cher tes jeux. Sinon, on joue sur PC.
Je suis surpris vraiment que Sony arrive à vendre. Parce que, aussi bien au niveau du prix des jeux que du prix des consoles, c'est l'enfer. Ouais,
c'est comme pour Nintendo, comme pour tout le reste. Le yankeesme, faut pas le sous-estimer.
Non, parce que
Nintendo, c'est moins cher.
Les consoles sont moins chères chez Nintendo.
C'est le Apple du jeu vidéo quoi.
Ouais.
Voilà, en tout cas n'hésitez pas évidemment à nous dire si vous allez réduire vos dépenses, en tout cas essayez mine de rien d'essayer de réduire votre consommation. Et la remarque que tu as fait sur doit-on calculer vraiment ce que consomme nos 450 watts de la 4090 là, est-ce que vous allez la sentir
plus
passer,
plus les 235 watts de ton Ryzen 7000
voilà,
quelque chose. Let's
voilà,
go.
Voilà les gamers
c'est nous n'avons pas de vélo électrique nous.
Moi, oui. Moi, j'en ai un, mais je dis jamais. Mais c'est à la force des épinards que je pédale. Et ça, c'est fort. On va marquer la deuxième pause. Et c'est l'heure des recommandations du mois. Rocco, jeu vidéo ici. Lococo, la mua.
Pas de Rocco, un regret. J'ai toujours pas fait Immortality de Sam Barlow. Alors qu'il est gratos.
Aïe.
C'est-à-dire qu'en fait, j'aime les jeux de Sam Barlow. Je suis un radin. En fait, le jeu est offert quand t'es abonné à Netflix ou au Game Pass. Et je l'ai sous le coude. Je suis juste éclaté depuis que je suis revenu de vacances. Et j'ai pas le temps d'y jouer. Il est sorti juste à la rentrée, là, le 30 août. Donc voilà, je me raccroche aux jeux vidéo en continuant à jouer à Rogue Legacy 2, qui est vraiment.
Très bien, Rogue Legacy 2. Super jeu.
Il est impeccable. Il est tellement clean dans ses sensations. Il est vraiment. Il est incroyable.
T'as Cult of the Lamb, non ?
Eh ben même pas. D'accord. Je te dis, j'ai pas fait Cult of the Lamb. Il y a plein de jeux que j'ai pas fait.
Il y a pas de problème. Dessus. Chloé.
Bah pareil, pas mal de regrets. Donc comme toi, Immortality, il est installé sur ma Xbox, mais je l'ai toujours pas lancé. Un que je veux absolument faire, mais je l'ai découvert hier soir. Trombone Champ.
Oh.
Ah oui, ça a l'air marrant.
On en a parlé avec notre réalisateur juste avant l'émission.
Ça fait le buzz sur les réseaux en ce moment là.
Je suis prête à jouer sur PC.
Mais alors sachez que Ghislain est un véritable joueur de trombone.
Ouais.
C'est dans
la vie. T'as vu le jeu ou pas ?
Il y a peut-être un truc à faire.
Ouais. Mais ça se joue comment ça, avec les sticks ?
Non, en fait, ça se joue sur PC aux souris. En fait, avec ta souris, tu...
Ah oui, slide.
Ouais, voilà, tu te mets à la bonne hauteur, incroyable, là où il y a la note. Et après, soit tu appuies sur clic gauche, soit tu appuies sur une touche du clavier, pour, comme si tu appuyais sur le piston. Quoi.
Ok. Oh là là là, ça va être incroyable.
Donc ça a l'air absolument incroyable. Et sinon, toujours dans les jeux musicaux, enfin les trucs musicaux, je me suis dit, oh là là, mais c'est génial, un jeu de rythme avec du métal, ça va m'intéresser. C'est Metal Hellsinger.
Ah.
Sauf que j'avais oublié une composante qui est FPS. Et donc voilà, j'ai fait deux
niveaux.
C'est
celui où il faut jouer en rythme.
Faut jouer en rythme, oh en fait. Là là. Faut jouer en rythme avec la musique.
Je me rappelle, j'avais dit quel enfer quand j'ai vu la démo, le trailer.
Pareil, grâce au Game Pass, j'ai pu l'essayer. J'étais partie pleine d'allant en disant, yes, ça va être trop bien. Et même en mettant genre la difficulté la plus faible, et en faisant bien ce que tu peux, heureusement bien paramétrer le son et les indices lumineux, toi, par rapport à la latence de ton téléviseur ou de ton casque, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est pas pour moi.
On dirait moi sur Crypt of the Necrodancer, hein, le même problème. Hein,
j'ai pas réussi à accrocher non plus.
C'est un truc de fou. Fibre Tigre.
Deux minuscules recos. D'abord, si vous, comme d'hab, vous découvrez Return to Monkey Island, c'est ça,
ouais.
C'est le sixième d'une saga. N'hésitez pas à tous y jouer parce qu'ils n'ont pas pris une ride. Et notamment, les gens vous diront, ah, ne joue pas au 4, il n'est pas bien. Jouez aussi au 4, au 5, ils sont très bien. Ils sont tous bien.
Très bien.
Ils sont tous bien. Ça, c'est la première mini reco. Et comme tu parlais de Sam Barlow, donc on a découvert avec Her Story. En fait, son tout premier jeu est gratuit.
Ah, tu n'as pas été son tout premier jeu.
Le jeu qui s'appelle Ale, voilà, dans lequel vous êtes dans un rayon pâtes du supermarché et vous pouvez tout faire. Mais si vous faites une chose, le jeu est terminé. Mais vous pouvez tout faire.
Il y a des centaines de fins.
Et le but, c'est de comprendre. Il y a une énigme autour de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, tu regardes les gnocchis et dis, ah, les gnocchis, ça me rappelle Rome. Et là, tu vas dire ce souvenir de Rome et tu vas explorer les souvenirs du gars et tu vas trouver la meilleure fin possible pour résoudre tous ces problèmes. Sam Barlow, c'est un peu le Stephen King, son premier jeu c'était le meilleur, mais bon.
Non. Ah, Her Story, c'était dingo.
Il faut jouer à elle. Okay.
Magnifique reco, Daz.
Eh bien écoutez, moi j'ai fait mon Yanclar full patate. J'ai profité du fait que désormais les exclusivités PlayStation tombent sur PC au bout de 2 ans pour jouer à Marvel Spider-Man Remastered.
C'est trop bien. Hein.
Qui est ultra cool.
Voilà, merci.
Je l'ai fait en stream intégralement, en fait. Enfin, la campagne, en tout cas, j'ai pas fait le truc d'aller chercher tous les bordels perdus à droite à gauche dans la ville. Mais j'ai joué en français parce qu'il paraît que c'est Donald Reignoux qui a fait le doublage et c'est super cool.
Il est trop bien.
Et c'est trop bien. Et franchement, voilà, j'ai kiffé. Je pensais pas que j'étais un mec de triple A narratif comme ça, mais en fait, si. Donc,
tu vois, c'est celui qui passe partout. Uncharted 4, hein, pareil.
Bah, je l'attends. Je l'attends. Il sort dans 2 semaines, je crois.
Ouais.
Ouais, ou dans 3 semaines. Donc, moi, je vais faire les jeux PlayStation, mais 2 ans après tout le monde.
Ils font des bons jeux.
Ouais, c'est très bien.
En supérieure version et en moins cher.
En plus, ouais.
Ouais, exactement.
C'est bon délire.
Tu vas faire le God of War ou pas?
Bah ouais, mais dans 8 ans du coup.
Non, il y a le God of War.
Ah non, celui là il est sorti là. Ouais. Ouais, si, peut-être, ouais, je pense.
Il est, bah, déjà qu'il est très beau sur PS4, je peux dire que quand t'as une grosse machine comme la tienne, il est. Même 4 ans plus tard, il envoie la patate. Hein.
Je pense que t'aimeras pas du tout.
Si, moi, God of War, j'y ai joué même sur PSP.
Non,
hein,
mais là, c'est un Dark Souls.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Tubourg et ça passe.
Roulade, Just Frame,
c'est pas un Devil May Cry.
D'accord. Je pense que tu vas pas aimer.
Ok, bon, tant pis.
C'est la tristesse, c'est comme ça. Moi, j'ai pas joué à grand chose, mais en petit troco, je pourrais vous donner Live Alive, le remake d'un JRPG de Square Enix sorti sur Switch justement pendant les vacances.
Remake et Square Enix dans la même phrase, c'est étonnant ça.
Ils sont en train d'alimenter littéralement la totalité du catalogue Switch. Le Nintendo Direct précédent était un Square Enix Direct total.
Ah. Il y avait un Théâtrisome, j'étais trop heureuse.
Théâtrisome, exactement. Un des jeux que j'attends.
350 musiques!
Et 503 si tu paies plus cher.
Ouais,
yes. Et ça, c'est la
vraie.
Voilà, donc très bonne adaptation. Un jeu qui te plairait beaucoup, il faut vraiment que tu le fasses, Fibre. C'est un jeu vidéo.
Live Alive.
Ouais.
Oui, je le connais. Ouais,
ouais, d'accord. Okay. C'est un jeu où, en gros, le système de gameplay est identique tout le temps, mais tu joues 7 scénarios différents. Et 7 scénarios ont une trame narrative totalement différente. Donc tu te retrouves dans un jeu qui est socialement différent. Un jeu d'infiltration, un jeu de combat, un jeu d'aventure, un jeu d'horreur, etc. Mais tu as le même système de combat pour tous les jeux. Et à la fin, tous les univers s'unissent et tu dois faire des choix pour arrêter, on va dire, la spirale du mal. C'est un jeu qui te renvoie directement à la tronche, directement tes choix. Pour un jeu des années 90, c'est très, très, très innovant. Et surtout, ce côté, avoir l'impression de faire des jeux qui sont tous différents alors que c'est exactement le même jeu, c'est une sensation très, très étrange, finalement. Un peu l'impression d'avoir le jeu vidéo Jojo Bizarre Aventure avec les arcs qui sont tous différents, mais avec le principe qui est toujours le même. Voilà. Merci.
Wow.
Incroyable, on a terminé. C'est incroyable, c'est 6 minutes. C'est la fin de la première partie de ce quête latéral, voilà, découpé en deux. N'hésitez pas évidemment à cliquer sur la deuxième partie
pour si le DLC.
Entendre le DLC payant via notre offre d'abonnement, évidemment toujours aussi accessible. On se retrouve tout de suite.